Merci Laurence Thomas et je voudrais commencer cette émission par un hommage à Bruno Bayen dont nous avons appris la disparition hier soir tard. Bruno Bayen était un élève d'Antoine Vitesse, c'était un ami et traducteur de Peter Handke, qu'il a d'ailleurs traduit, avec qui il a beaucoup travaillé pour la mise en scène de théâtre. Bruno Bayen était fondateur d'une compagnie qui s'intitulait La Fabrique de Théâtre. Il a monté une quarantaine de pièces, aussi bien du répertoire que des pièces qu'il écrivait lui-même. La dernière s'intitulait « Laissez-moi seule » et nous a laissé des souvenirs brûlants. Elle avait été donnée au Théâtre de la Colline à Paris. Ces dernières années, Bruno Bayen estimait qu'il n'était pas assez reconnu dans le théâtre et avait décidé de plutôt se consacrer à la littérature. Il écrivait des romans sur son amour des mots, des romans sur son amour de l'enfance. Et dans son prochain ouvrage, il écrivait, vers la fin de son texte, ceci que je vous lis. Vous marchez dans la campagne sur un chemin d'herbe, un jour sans vent. Des oiseaux survolent la luzerne. Tu t'arrêtes pour faire écouter le silence. Entre deux scansions, c'est toi qui soulignes le silence et tu ajoutes comme c'est beau. Le tu, c'est tu. Fin du chapitre sur le silence. Ce sont les propres mots de Bruno Bayen dans un ouvrage que nous, journalistes, nous avons reçu il y a 2 jours, un ouvrage qui sortira en janvier aux éditions Christian Bourgois et qui s'intitule « Élève ».
L'heure bleue sur France Inter.
L'heure bleue, ce soir, nous avons la chance de recevoir Serge Toubiana, auteur de ses mémoires intitulées « Les fantômes du souvenir », un livre qui vient de paraître aux éditions Grasset, une sorte d'autobiographie, une mise en perspective de son amour du cinéma qu'il a concrétisé tout au long de son existence et qui va continuer, je l'espère. Et puis Olivier Assayas, cinéaste qu'on connaît, qu'on aime, je crois que Serge Toubiana aime aussi beaucoup ce que vous faites, Olivier Assayas, à l'occasion de la sortie d'un film remarquable que nous avions découvert au Festival de Cannes l'année dernière et qui va sortir la semaine prochaine et qui s'intitule « Personal Shopper ». Mais pour vous deux, et après avoir relu un texte de vous, Olivier Assayas, publié il y a longtemps, un très beau texte intitulé « Une adolescence dans l'après-mai », eh bien nous allons commencer en musique comme chaque soir, mais pour vous faire vous souvenir de la fin de votre adolescence, écoutez ce que nous avons choisi.
I wanna ride, wide ride, wide ride of my home. Black man got a lot.
vous est-il donc arrivé, Olivier Assayas, quand un jour à Londres, dans un magasin de disques, vous avez entendu pour la première fois les Clash ?
C'est un peu une sorte d'éclair dans un ciel bleu, quoi. C'est-à-dire, c'est la première fois que j'entendais quelque chose qui ressemblait à ça. Et on était à une époque où, au fond, il y avait une forme de radicalité musicale qui allait aussi avec la radicalité politique, mais qui était portée par une musique qui était planante et qui est répétitive au bon et au mauvais sens du terme. Et tout d'un coup, il y a cette espèce de chose violente où il y a une dimension nihiliste, hein, c'est-à-dire le qui était le début du punk rock, le tout début du punk rock. On parle de la fin de l'année 76, où il y avait cette chose assez destructrice et au fond. C'est intéressant d'ailleurs pour moi de la réécouter maintenant, parce que au fond le sentiment dominant aujourd'hui, c'est l'euphorie. C'est tout d'un coup une musique qui arrive, qui ne donne pas envie de rien faire, qui donne au contraire envie de prendre le monde par de s'y précipiter. Et ça a été d'une certaine façon comme le réveil. Pour les gens de ma génération, ou même plus jeunes que moi, le signal à un moment donné que le monde était à prendre, que le monde allait se réinventer, pouvait se réinventer, que d'une certaine façon, il y avait quelque chose qui repartait à zéro là, sur une note qui allait peut-être pouvoir nous porter. Elle ne nous a pas forcément porté bien loin, mais quand même, il y a quelque chose du monde qui a changé. À ce moment-là, à travers cette musique-là, à travers cette énergie-là, qui s'est répandue dans la société. La musique, c'est toujours le premier signal, c'est le présent, c'est la musique qu'il saisit, c'est des jeunes gens qui ont 19 ans, qui ont 20 ans, qui à un moment donné font une musique, font des films, écrivent de la poésie ou Dieu sait quoi, mais qui à un moment donné saisissent le pouls du monde, les premiers. Et après, ça circule à l'intérieur de la société, mais c'est toujours un peu le point de départ d'un changement.
Et pour vous, Serge Toubiana, quel a été le déclencheur de votre désir ? Est-ce que vous avez eu comme ça des espèces de coups de foudre, de révélations qui sont peut-être pas passées par la musique, qui sont passées, d'après ce qu'on comprend, d'après l'écriture de votre livre, par des rencontres, par la politique aussi, comme le disait Olivier Assayas ? C'est peut-être 68 qui a été le moment d'une sorte de découverte de votre propre désir, non ?
Non, moi c'est un peu avant, parce que 68 j'étais déjà un peu engagé. Moi j'ai vécu mai 68 de façon extrêmement... j'ai raté ça. J'étais au Parti communiste et le chef... j'étais à Grenoble, la ville où j'ai fait mes études secondaires et début de mes études universitaires. Le chef du parti à Grenoble m'a dit « Vas-y, freine le mouvement ». Je l'écris dans mon livre. Donc quand vous êtes porteur d'un tel message, vous pouvez pas aller bien loin. Donc pour moi, la vraie...
Mais vous l'avez pas vraiment fait. Freiner le mouvement.
C'est impossible.
Vous l'avez plutôt accompagné,
non,
ce mouvement.
Non, mais 68, j'étais penaud, parce que j'étais un jeune militant du Parti communiste, et déjà étudiant à la faculté de Grenoble, et que le mouvement est parti sans non seulement sans moi, mais sans le Parti communiste, et que le Parti communiste ne savait pas quoi faire, si ce n'est essayer de le freiner, quoi. Mais moi, le vrai changement dans ma vie, c'est Pierrot le Fou en 65. J'ai 16 ans, je suis jeune, j'ai encore aucune expérience de rien. Et la vision de ce film, je le raconte aussi dans mon livre, je le vois seul, personne ne m'a dit d'aller le voir, je n'ai aucune recommandation, je suis un jeune homme.
C'est le titre qui vous a plu. Godard, vous n'aviez pas entendu parler.
À peine, à 16 ans, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je savais que c'était un cinéaste contemporain important, mais je n'avais pas vu ses films précédents.
C'était Belmondo, peut-être.
Belmondo, Carina, Le Bleu du Ciel, pour reprendre
l'affiche qui était si belle.
La Méditerranée, la poésie, la guerre du Vietnam, la bande dessinée, l'amour fou, le cinéma, Samuel Fuller dedans, etc. J'ai un sentiment comme ça que tout d'un coup, quelque chose me parlait à l'oreille plus fort et plus juste que jusqu'à présent, tout ce que je voyais, tout ce que j'écoutais. Et évidemment, parallèlement, j'écoutais Bob Dylan, John Baez, des choses comme ça, très Léo Ferré ou Jean Ferrat, peu importe. Mais ce film-là a fait basculer d'un point de vue purement sensitif... J'ai eu une vibration nouvelle, quoi. Et le sentiment que quelqu'un me parlait derrière l'écran, voilà.
C'est-à-dire que tous les deux, vous avez ressenti l'un à l'écoute d'une musique et l'autre à la vision d'un film, qu'il y avait des nouvelles formes qui pouvaient exister et qui, peut-être, allaient vous séduire et orienter de votre vie. Serge Toubiana.
Oui, moi, après toute cette période un peu politique dont vous parliez, Laure, c'est-à-dire l'engagement, le fait de quitter le Parti communiste le 22 août 68, parce que l'invasion de la Tchécoslovaquie, pour moi, était un scandale absolu. Je ne pouvais plus rien justifier de ce que j'étais jusque-là. Les errements gauchistes pendant 2 ans, 3 ans. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ben, il y a le cinéma. Va à Paris, inscris-toi à Censier et suis les cours des Cahiers du cinéma. Voilà, c'est ça que, vaguement, dans le brouillard dans lequel j'étais, quelque chose me disait que c'était par là que je pouvais trouver mon salut. C'était une vision totalement pleine d'illusions, mais ça m'a mené jusque-là, quoi.
Nous allons écouter la voix d'André Bazin, c'est une archivina de 1950, donc ouais. Très très ancienne. Il va évoquer la situation du cinéma français, je rappelle qu'il était critique, un des fondateurs des Cahiers du cinéma, l'auteur de Qu'est-ce que le cinéma et de livres qui, comme quand vous étiez étudiant, Serge Toubiana, à Censier, il y a encore en ce moment des étudiants de cinéma à Censier qui étudient encore par bien cœur sûr. Les textes d'André Bazin. Écoutez ce qu'il dit en 1950, je crois que ça n'a pas pris une ride.
Ce que je crois, c'est que si l'aide au cinéma français a pris la forme qu'elle a prise, c'est en grande partie les producteurs qui en sont cause, en s'opposant à ce qu'elle soit attribuée à la qualité et en voulant qu'elle rapporte aux films qui rapportaient déjà le plus d'argent. Et c'est une façon de tuer la poule aux œufs d'or, car en définitive, à longue échéance, on s'aperçoit que les films de qualité sont les films qui, en définitive, payent. Si le cinéma français a perdu l'année dernière 60 millions de spectateurs, c'est parce que les spectateurs sont plus difficiles que jadis, et ce n'est pas en faisant des films dits commerciaux que l'on fait du bon commerce. Je ne veux pas dire par ces remarques que d'autres facteurs ne jouent pas, en particulier la concurrence américaine et la fiscalité énorme qui pèse sur le cinéma français, mais je crois qu'il faut tenir compte dans l'ensemble des mesures à prendre et qui sont urgentes de cet élément de qualité qu'il était de notre rôle de souligner.
Alors vos réactions à tous les deux, Olivier Assayas?
C'est émouvant d'entendre Bazin. Moi, je l'ai évidemment pas connu. Je l'ai lu. C'est sans doute un des théoriciens du cinéma qui m'a le plus marqué. Parce que j'ai eu l'impression d'apprendre quelque chose de la morale de la pratique du cinéma à travers lui. Et aujourd'hui, au fond, cette question morale existe plus tant que ça dans la réflexion sur le cinéma. Et c'est très rare une pensée du cinéma aujourd'hui qui arrive à articuler un discours cohérent, économique, politique, d'une certaine façon. Aujourd'hui, la critique du cinéma ou la théorie du cinéma a un discours sur le politique en règle générale, mais est incapable de penser la fabrication du cinéma, là où André Bazin tenait les deux fils, c'est-à-dire qu'il comprenait la fabrication, et surtout, encore une fois, il comprenait qu'il devait y avoir une morale dans la fabrication. Et je crois que c'est ce qu'il a constamment dit dans tous ses textes, et qu'il répète là une fois encore en évoquant l'économie du cinéma, mais qui est aussi son sujet central.
Serge Toubiana.
Moi, c'est aussi émouvant d'écouter la voix de Bazin. Là, il a 32 ans. C'est un jeune homme. On a l'impression que c'est... Il a 32 ans. Oui. Mais pour nous, enfin, je pense aussi pour Olivier, c'est que Bazin, nous, on a eu accès à Bazin à travers Truffaut, à travers La Nouvelle Vague, à travers Danet, à travers des écrits de gens plus proches de notre génération, qui nous ont, au fond, apporté Bazin sur un plateau, je dirais. Évidemment, quand on lisait les cahiers, moi j'ai un peu lu les cahiers sans les comprendre d'ailleurs à la fin des années 60. C'est la revue quoi. C'est là que ça se passe. J'ai même pas imaginé qu'il y avait d'autres revues. Positif était une autre revue très très tout à fait. Enfin, j'allais dire raisonnable, peut-être pas, je sais pas quel est le bon mot, mais tout à fait sérieuse. Mais pour moi, c'était les cahiers, et je pense que pour Olivier aussi, puisque c'est moi qui l'ai fait rentrer aux cahiers en 79.
Fin 79.
Ouais. Et vous n'avez pas regretté
jamais.
D'avoir introduit un tel loup dans votre bergerie.
Non, c'est pas un loup, il a apporté une énergie, une curiosité. un dynamisme.
Alors d'abord, il faut savoir comment vous, vous y êtes rentré. Vous, l'étudiant de Grenoble qui connaissiez personne à Paris, qui êtes monté à Paris, vous vous inscrivez donc...
Paris 3.
À Paris 3, vous faites des études de cinéma, vous avez des professeurs qui vous plaisent, et on a l'impression à lire votre livre que quand même, à cette période-là, les choses étaient faciles. Quand on était jeune, qu'on avait un désir, on pouvait finalement arriver à le concrétiser, à le réaliser, ce désir-là.
Facile, je sais pas. Il fallait un petit peu d'obstination, d'entêtement, d'aveuglement. C'était une période extrêmement gauchiste, hein, et moi j'avais été gauchiste, et pour moi c'était fini le gauchisme. Je sais pas pourquoi, j'avais le sentiment que c'était fini, que si on aimait le cinéma, il fallait s'y consacrer avec beaucoup de sérieux, d'apprendre, etc. Et les gens qui m'ont un peu adoubé ou reconnu comme pour ce que j'étais, c'est-à-dire un jeune homme assez inculte et assez nul, j'étais incapable d'articuler, d'écrire quoi que ce soit, à 21 ans, 22 ans, c'était Serge Danet, Pascal Canet, Pascal Bonisère, j'avais comme prof Jacques Aumont, qui est un grand théoricien du cinéma, aujourd'hui encore, qui a fait une très belle carrière à la fois à l'université. Bon, c'est des gens, et puis eux étaient eux aussi tenaillés par le gauchisme, la révolution culturelle en Chine, des choses lourdes quand même, qui avaient des conséquences importantes et graves quant à l'engagement à la fois théorique et pratique, politique. Et donc, il y a eu une longue période dont je parle dans mon livre, de difficile, rugueuse, aride, où il a fallu retrouver le goût du cinéma. Et ça a pris des années avec eux. Et moi, j'ai eu la chance que Serge Danet, m'accueille et m'accepte comme un interlocuteur. Je l'écoutais. Il aimait qu'on l'écoute. Et moi, j'aimais l'écouter. Donc j'ai appris en écoutant, voilà.
C'est une très bonne école, mais vous, Serge Toubiana, vous avez été donc environné dans cette constellation des cahiers du cinéma par des tuteurs qui, comme Godard, Rivette, Romère, Truffaut, vous avez écrit une très belle biographie d'ailleurs de François Truffaut, vous avez connu et travaillé avec tous ces gens-là, sont devenus cinéastes. Oui. Vous avez fait des films documentaires, mais vous ne vous êtes jamais lancé dans la fiction.
J'ai jamais, contrairement à Olivier, dont je savais quand il est rentré au cahier en 79 que c'était un moment pour lui, et pour nous, et qu'on allait bien vivre ce moment ensemble. Et je savais qu'il voulait faire des films, puisque en fait, la première fois qu'on l'a vu avec Serge Danet, il avait fait un court métrage qu'on a regardé, etc. Donc, il avait déjà mis le pied comme ça dans cette idée de réaliser des films. Moi, j'ai toujours su que c'était pas là ma place. Que j'en avais pas l'énergie, pas l'obstination, pas l'entêtement qu'il faut, et que je reconnais chez Olivier, que j'admire beaucoup comme cinéaste, comme artiste, que je n'avais pas ces qualités-là. Que moi, ma place, elle était plutôt devant l'écran, à côté de l'écran, comme une espèce d'intermédiaire entre le film et l'auteur qui est derrière le film et le spectateur. J'ai toujours su que ma place, elle était là, s'il fallait inventer une place. Je me suis jamais dit, tu vas écrire un scénario, tu vas devenir cinéaste. Je n'avais pas ce courage-là ou cette folie-là, parce qu'il faut de la folie aussi. Une folie magnifique, mais je ne l'avais pas.
Et vous, Olivier Assayas, quand vous êtes rentré au cahier du cinéma, donc grâce à Serge Toubiana, vous étiez très très jeune, mais pour vous, c'était un sas.
Pour moi, c'était un pas vers le cinéma, vers la pratique du cinéma. J'ai jamais eu le projet d'écrire sur le cinéma, être critique de cinéma, c'était presque un objet de phobie pour moi. Mais par contre, il y avait cette idée qu'il y avait une revue qui était écrite, rédigée par des gens de ma génération ou un peu plus âgés que moi qui voulaient faire des films. C'était une manière de passer à la pratique, c'était d'apprendre le cinéma au cahier. Et pour moi, les cahiers ont été la véritable école de cinéma. Et c'est une école de cinéma formidable parce que j'ai été du jour au lendemain accepté, écouté, pris au sérieux, ce qui semblait à l'époque me semblait complètement improbable, par des gens que j'admirais, que j'estimais, qui m'ont fait passer Serge Toubiana, Serge Danet, Pascal Bonitzer, Serge Le Perron, Daniel Dubrou. Enfin, il y avait une équipe qui était vraiment Alain Bergala. Il y avait vraiment une équipe vraiment qui était passionnante. Enfin, je veux dire, c'était vraiment l'endroit où se pensait le cinéma français, mais se pensait sa pratique. Et voilà, moi j'étais avec Charles Tesson, on était un peu les deux jeunes qui écoutaient les aînés. Mais pour moi, c'était formidable à cet âge-là de pouvoir rencontrer les cinéastes que j'admirais, de voyager, d'aller dans des festivals où je voyais des films
que
jamais je n'aurais
eu accès. C'est ce que raconte Serge Toubiana dans son livre. Vous avez fait de nombreux voyages ensemble pour aller rencontrer les plus grands cinéastes dans le monde entier.
C'était l'époque où j'ai repris les cahiers en 81. D'année partie à Libération, donc de fait il fallait que quelqu'un s'occupe des cahiers, et ils ont bien voulu, lui comme d'autres, Narboni, Bergala, tous les gens que Olivier vient de citer, ont bien voulu. En gros, j'étais disponible pour m'occuper des cahiers. Et donc moi, ma première intention, c'était de retourner aux États-Unis, où les cahiers ne parlaient plus du cinéma américain depuis 70, 69, 68. Et donc, on est parti avec Olivier, en janvier 82. Olivier, Serge Le Perron, Raymond Depardon, moi-même, à Los Angeles. Dané est parti à New York, Fargier aussi. Et on a fait ce que je voulais, Made in USA. Et ça a été une expérience, mais à la fois humaine, amicale et professionnelle, mais dont on a encore, quand on y pense, avec les photos de Depardon, qui était un compagnon de voyage magnifique, on a la chair de poule, parce qu'on a rencontré tout le monde, quoi. Parce que les cahiers, ça on s'en est rendu compte, on sortait d'une longue période un peu difficile, les cahiers, c'est un passeport sublime. Vous allez à Hong Kong, vous allez en Inde, vous allez aux États-Unis, vous allez en Allemagne, en Suède, les cahiers du cinéma, tout le monde pense que c'est la revue, c'est la revue de la nouvelle vague, quoi.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, c'est pas une mauvaise idée. Et vous écoutez le choix musical d'Olivier Assayas, vous l'avez reconnu, c'est Leonard Cohen, You Want It Darker.
Is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. Lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, nay, 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 I'm ready, my lord. Ready, my lord.
Mishka Sayas, le frère d'Olivia Sayas, notre camarade de 21h que j'admire et que j'écoute tous les soirs, vient juste de nous rejoindre. Je l'avais invité parce que je ne le vois jamais le soir. Je lui dis bonsoir, je ne le vois jamais. Et grâce à vous, Olivier, je me suis permise de l'inviter. Et donc, c'est à vous, Olivier, que je pose la question. Pourquoi ce choix ? C'est vous qui allez parler de musique ce soir sur France Inter ?
Oui, ou de musique ou de poésie. Leonard Cohen, je le vois au fond autant comme un poète, comme un grand poète de mon époque, d'aujourd'hui, enfin qui nous parle. Et son dernier disque est bouleversant. Donc quand vous m'avez proposé un choix musical, j'ai pas réfléchi deux fois. Enfin, c'est ce disque qui est une merveille que j'écoute beaucoup, pas trop parce que sinon je me jette par la fenêtre. Mais à part ça, je trouve que c'est il y a des choses tout à coup qui donnent le frisson dans le dos d'être simplement contemporain de quelque chose d'aussi magnifique et dont on sait que ça restera toujours.
Alors tous les deux, tout à l'heure, vous avez parlé d'un homme qui a beaucoup compté pour vous, qui compte beaucoup pour nous. Heureusement, on peut lire ses textes. C'est Serge Danet. Serge Danet qui a travaillé au Cahier du cinéma. Serge Danet qui a publié des livres. Serge Danet avec qui vous avez entretenu un très long compagnonnage, vous, Serge Toubianard. Serge Danet que nous allons écouter. Il va parler de l'anniversaire des 30 ans des Cahiers du cinéma.
On s'est rendu compte que les Cahiers, ça avait croisé biographiquement un nombre énorme de gens qui sont dans le cinéma à différents postes à Paris, et que chacun tenait un petit bout de l'histoire de la revue, un petit bout de la légende aussi, ou du mythe, et que c'était nous qui avions pris l'initiative de faire en sorte que tout ça bouge un peu plus vite. Et on savait bien que faire ces numéros spéciaux, que faire cette fête, Dieu sait si les cahiers ne sont pas très mondains, mais là, on a voulu vraiment marquer la chose, ça a permis de renouer des dialogues qu'on croyait morts, ça a permis également de se rendre compte qu'il y avait des faux dialogues qui n'étaient pas très vivants, et peut-être que le nôtre était parmi ceux-là, peut-être parce que justement cette règle de bienveillance que tu avais observée avait ses limites aussi, et c'est peut-être bien qu'aujourd'hui on en parle. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les cahiers, c'est avant tout, c'est un mot, c'est un nom, c'est comme on dit dans notre jargon, c'est insignifiant. On peut dire qu'à ce niveau-là, on a plutôt atteint notre but. On a été replongé dans l'histoire de la revue.
Alors de Serge Danet, vous parlez, Serge Toubianard, dans votre livre « Les fantômes du souvenir » de manière bouleversante. Vous racontez certains épisodes, vous racontez notamment un épisode pendant lequel Serge Danet, qui était aussi un grand critique de cinéma ici et producteur de radio à France Culture, où il faisait une émission hebdomadaire absolument remarquable, avait voulu créer cette revue qu'il a réussi à créer, qui s'appelait Trafic. Et puis, il a commencé à comprendre assez tardivement dans son existence que finalement il était capable d'écrire aussi pour lui. Et il a écrit des textes bouleversants qui étaient des sortes d'autobiographies, notamment Persévérance.
Persévérance, on l'a fait ensemble parce qu'il n'arrivait pas à l'écrire. Donc je me suis un peu dévoué par amitié, par admiration et par dévouement parce qu'il était très malade. Je voyais qu'il n'arrivait pas à écrire de son livre et donc je lui ai dit, bah, écoute, je lui ai envoyé un mot et puis il m'a répondu à un mot absolument bouleversant et d'amitié magnifique. Et on a fait cet entretien qui a duré deux jours entiers et que j'ai fait décrypter et qu'il a commencé à réécrire et qu'il n'a pas pu terminer puisqu'il est mort en juin 92. Et donc, Persévérance est paru deux ans après. Et c'est son livre et un peu le mien. Non, j'ai aidé à ce que ce livre existe. Mais pour moi, le damné qui s'est révélé, vous parliez de son écriture, c'est beaucoup à Libération, quoi. J'ai vu, enfin Olivier aussi, on a vu le changement. L'homme a changé, quoi. L'homme, la vibration, la vitesse. Il a adoré être à Libération parce que il avait le sentiment d'exercer son magistère de façon magnifique, rapide, avec des retours flamboyants. Les gens le lisaient. Beaucoup de gens achetaient Libération pour lire Serge Danet, quoi.
Mishka Sayas.
Oui, bah moi je le croisais souvent parce que j'étais gamin, j'écrivais sur le rock là-bas. Je me souviens, on allait chez Brocou en face, on discutait beaucoup, mais c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant.
Ça, j'ai un souvenir. Accessible.
Très accessible et puis toujours disponible.
Olivier Assayas.
Moi, je vais répéter la même. Enfin, je vais répéter de façon différente ce que j'ai dit sur Bazin. Moi, ça m'a absolument.
C'était un maître.
Non, mais ça m'a bouleversé d'entendre sa voix. C'est vraiment tout d'un coup la façon dont la voix rend quelqu'un présent et le phrasé très particulier de Serge. Ouais. Ça a fait revenir quelque chose de l'amitié profonde que j'ai eue pour lui. Et au fond, ce que je trouve beau dans le destin de Serge, c'est qu'il donne un sens à l'écriture sur le cinéma. C'est-à-dire que l'écriture sur le cinéma doit devenir de l'écriture. Sinon, elle n'est rien. Et Serge...
C'est-à-dire
disons que les objets, les choix critiques, c'est secondaire par rapport à la qualité de la pensée, par rapport à la qualité de l'écriture. Je ne sais pas si j'étais d'accord sur les choix de Danet, mais je sais que je lisais un grand écrivain ou quelqu'un qui devenait un grand écrivain progressivement et qui, au fond, les dernières années, n'a cessé de grandir. Et au fond, ce qui nous laisse, c'est une série de textes magnifiques qui ne sont pas sur le cinéma, mais qui sont plutôt autour du cinéma, qui sont une manière de lier l'introspection à notre expérience de spectateur de cinéma, et c'est quelque chose d'infiniment...
Le cinéma fait partie de la vie, effectivement, quand on lit Serge Danet.
Et c'est pour moi, c'est une sorte de dépassement de la problématique de la cinéphilie. Serge, à travers sa vie, à travers son existence, a dépassé la problématique de la cinéphilie, et au fond, pas grand monde n'a repris ce flambeau-là.
Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait écrit des textes merveilleux sur le tennis.
Bien sûr, oui.
Qui étaient géniaux sur McEnroe et Lendl. Enfin, c'est des textes d'anthologie.
Et Borg, c'était son
héros. Borg, oui.
Qu'il partageait avec Marguerite Duras. L'adoration.
Je
croyais
que vous étiez des fois amoureux du foot, mais non, du tennis
tout.
Aussi, grâce à Serge Danet.
On aime tout.
Vous écoutez France Inter, on va entendre maintenant le choix musical de Serge Toubiana.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place. Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment.
Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites.
Nous sommes toutes deux nées de pères inconnus. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté
qu'il avait sur la joue.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Aimant la ritournelle, les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu.
Les coups de foudre
ou sauvages passions.
Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate. Artiste passionné,
musicienne,
acrobate.
Cherchant un homme beau,
cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à bobo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Deux cœurs, quatre prunelles,
Mais dis-moi le cas. Ça y est, je suis en retard.
Delphine.
Oui.
Tu vas chercher Boubou?
Oh, tu veux pas y aller?
Bah, j'y reste après-midi.
Oh, je peux pas sortir avec ça.
Oh, puis si.
Oh, puis non. J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais.
Qu'est-ce qu'il va encore celui-là?
Je ne sais pas, me voir.
Oh, bah, il attendra. Tu rentres déjeuner?
Oui, mais pas avant une heure.
Qu'est-ce que j'ai fait de mon poudrier?
Ah non, je vais.
Jouant du violoncelle, de la trompette ou du banjo, aimant la ritournelle, les calembours et les bons mots, du plan dans la cervelle, de la fantaisie à bobo, nous sommes sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux.
Alors, on va pas demander à Mishka Sayas, parce qu'il était pas né. Pourquoi et comment vous avez choisi cette chanson, Serge Toubiana? Doit-on dire que c'est la chanson des demoiselles, la chanson des jumelles, des demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy, musique de Michel Legrand? Dans votre livre, Les fantômes du souvenir, qui est un livre qui raconte une succession de coups de foudre et d'apprentissage du monde grâce à votre amour du cinéma, de manière très incarnée, parce que ce sont aussi des portraits de rencontres avec des cinéastes. Ouais. Et à travers ces cinéastes que vous avez eu la chance de connaître et avec qui vous avez eu la chance de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, évidemment, il y a Jacques Demy.
Ben oui, il y a Jacques Demy, puis j'ai connu plus tard, grâce à mon travail à la Cinémathèque, Michel Legrand, pour qui j'ai toujours une admiration. Jacques Demy, oui, et Agnès Varda, évidemment, ça, pour moi, c'est, ils habitaient ensemble, ou l'un en face de l'autre, donc rue Daguerre, donc c'était... Et puis, ils aimaient les cahiers, quoi. Et le fait que les cahiers s'intéressent à leurs films, comme avec Danet, j'ai souvent été interviewé Jacques Demy, avec Serge, on était tous les deux à lui poser des questions, et ça durait des heures, puis on allait au restaurant déjeuner. Il y avait une sorte de compagnonnage, le mot a été employé tout à l'heure, par vous, Laure, mais... Et c'est vrai que... C'est des moments très forts, parce que ce que j'aimais aussi chez Jacques Demy, c'est une mélancolie. Il était assez
une
triste.
Une poésie.
Poésie, mais il était assez triste, parce que là, ce qu'on vient d'entendre, ça a 50 ans. Ça n'a pas une ride. Et c'est le mélange, l'articulation géniale entre le trivial et le sublime, quoi. Parce que les dialogues, c'est vraiment la trivialité même, mais la trivialité de la vie éternelle dans ce qu'elle a de magique aussi. Mais Jacques était quelqu'un... qui avait un peu perdu, ou que les gens, ou les producteurs, ne lui faisaient plus confiance pour retrouver cet état de grâce qui avait été le sien dans plusieurs de ses films, Podane, évidemment, Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort. Donc il y avait chez lui un sentiment d'être dépassé, qui était à la fois mélancolique, une tristesse, et ça me touchait, ça nous touchait beaucoup. Et on avait envie, vraiment, on avait défendu une chambre en ville en 82. C'était une bagarre horrible. On s'est fourvoyé, on a attaqué bêtement un autre film, L'As des As. Mais il était malheureux, quoi, que le public ne soit plus vraiment là. Et donc, je tenais dans mon livre à parler de ça, parce que ça a été une rencontre, comme celle avec Jean Eustache, avec Truffaut, avec Piala, avec beaucoup de gens. Des rencontres, parce que ce sont pour moi des grands... Enfin, je ne sais pas dire, des grands artistes de cette époque. Et comme aujourd'hui, je considère Olivier Assayas comme un grand artiste de notre époque. Personal Shopper, j'ai envie d'en parler parce que c'est un film magnifique, quoi. Magnifique sur les puissances du cinéma. Ce que j'aime au cinéma, c'est quoi? C'est la puissance, le mystère, le secret, les fantômes, tout ce qui fait qu'un film devient pour nous une énigme, mais une énigme qui vous tient. Physiquement, le corps est pris, le regard est complètement... moi, je suis hypnotisé quand je vois le film d'Olivier Assayas.
Alors justement, ce film va sortir la semaine prochaine, nous l'attendons.
C'est fort de passer de Demy à Assayas.
Oui, mais je trouve que c'est pas si lointain.
Ben oui.
Par la grâce, la poésie, le cadre, la direction d'acteur, l'amour des actrices, on va reparler des actrices.
Elle est sublime.
Et donc, moi, j'attends de le revoir. Et le film va sortir sur les écrans la semaine prochaine. On en écoute un extrait. Personal Shopper, Olivier Assayas.
What are you doing in Paris?
I'm waiting.
What are you waiting for?
My brother died here. My twin brother died in Paris.
An accident?
No. No, heart attack. I actually have the same malformation.
Does it scare you?
No. I didn't scare him.
You're staying here to mourn.
No, I'm waiting. I told you I was waiting.
What are you waiting for?
So we made this oath. Whoever died first would send the other a sign.
A sign? From the afterlife?
You could call it that. You could call it a million things.
But how do you know if it's a sign?
I'm a medium. He was a medium. I'll just know it.
Alors cet extrait se situe dans le premier tiers du film. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va visiter une maison. Elle est interprétée par Kristen Stewart. Et elle va dire ce qu'elle ressent à l'intérieur de cette maison. On va pas raconter le film, Olivier Assayas. On va simplement dire qu'il y a plusieurs Olivier Assayas quand il filme... Parce qu'il y a plusieurs branches dans votre art et que là, vous renouez avec quelque chose qui a déjà existé dans votre cinématographie, c'est-à-dire, comme vient de le dire Serge Toubiana, le cinéma, c'est aussi la résurrection des fantômes. Le cinéma, c'est pouvoir dire, grâce à des caméras, ce qui est invisible, ce que nous ressentons et qui ne va pas se manifester, mais qu'on peut transmettre par l'art du cinéma. Comment c'est élaboré la trame de ce film ?
Je crois que j'avais envie de parler d'abord d'un personnage qui est tiraillé, enfin, par deux pôles qui sont ceux de la vie de chacun, c'est-à-dire une vie intérieure et une vie matérielle, ou quelqu'un qui fait un travail aliénant.
Elle achète des fringues pour des gens très riches.
On ne peut plus aliénant. Voilà, on ne peut plus aliénant. Ingrat, où faut grosso modo son métier, c'est de transporter des sacs sur son scooter d'un point A à un point B et retour. Et simultanément, elle trouve une sorte de salut, de consolation dans l'art, dans quelque chose qui est du côté de l'invisible, où sans doute se trouve le meilleur d'elle-même.
Elle a des dons.
Et elle a le don de... Elle pense qu'elle a peut-être, elle n'est pas complètement sûre, la capacité de communiquer avec l'au-delà. Elle est médium. Elle est ce qu'on appelle médium. Ça veut dire une forme de sensibilité particulière qui ensuite permet l'invocation ou l'imagination d'ombre, de présence, de fantôme, quel que soit le nom, etc. Mais ce que j'avais envie de faire, c'était un film où justement où je m'aventure dans une zone qui est celle... Alors, on dit du fantastique, en réalité, j'ai envie de dire de l'inconscient. Le cinéma doit être habité par l'inconscient. Est-ce que le cinéma d'aujourd'hui perd ? C'est cette lucidité sur sa dimension d'inconscient. Moi, je me suis toujours plus intéressé de ce point de vue-là à l'énigme qui est à l'intérieur de l'homme, qu'à la description, admettons, du social, qui du monde matériel sur lequel on est à peu près tous d'accord, qui cloche, mais au fond, ce qui nous intéresse, c'est peut-être les mystères qui sont à l'intérieur de nous. Et ce que j'avais envie de dire aussi, c'était peut-être de prendre à l'envers cette question, y compris du cinéma, parce que le cinéma de genre, on s'est habitué à des repères qui sont ceux du cinéma américain. Et l'Amérique est habitée par ce manichéisme. Il y a le bien et il y a le mal, le visible est bon, ce qui se cache derrière l'invisible, ce qui se cache derrière le visible est mauvais, très mauvais, et éventuellement même l'incarnation du mal. Dans les cultures, on va dire, chrétiennes, on ne croit pas à ce manichéisme, l'humain est plus complexe que ça. Mais surtout, l'invisible peut ne pas receler le mal, il peut peut-être éventuellement receler le bien. Il peut y avoir quelque chose de bénéfique dans la compréhension et la réflexion sur ce qui, en nous-mêmes, nous est énigmatique ou mystérieux. Il y a dans cette quête quelque chose qui peut être beau et qui peut nous guérir ou nous réconcilier avec nous-mêmes. Et le film raconte la façon dont quelqu'un, à travers un chemin un chemin intérieur, finit par trouver en elle une forme de... réconciliation.
C'est un film poétique, c'est un film insoumis, c'est un film qui ne peut rentrer dans aucune case, en tout cas pas celle que nous accorde le cinéma américain. C'est un film qui nous dérange et qui nous habite bien longtemps après, parce qu'il s'agit effectivement de notre inconscient. Comment vous l'avez vécu, ce film, Serge Toubiana, qui d'ailleurs, avait, quand il avait été projeté au Festival de Cannes, avait énormément dérangé, parce que justement, il se poursuit. C'est formidable, les films qui se poursuivent une fois que l'écran est éteint.
Moi, j'ai eu un sentiment d'hypnose. C'est-à-dire que j'étais hypnotisé par le personnage.
Alors, il faut dire que c'est Kristen Stewart, oui, qu'on avait découvert dans Twilight et voilà, qu'on avait découvert dans un de vos films précédents, où elle était déjà super dérangeante, oui, parce que géniale, elle est tout, elle a l'air intelligente, oui, elle est belle comme, oui, le soleil. Oui. Elle était déjà dans Sils Maria, avec Juliette Binoche.
Et ben là, elle est sans Juliette Binoche, elle est toute seule, elle est à l'image, et elle tient, enfin, grâce à Olivier, parce que la mise en scène est fondamentale. Elle est regardée par Olivier, mais elle, moi, spectateur, je la regarde, et ce qu'elle me transmet, j'ai pas senti ça depuis des lustres, quoi. Ce sentiment, en tant que spectateur, de voir quelqu'un sur l'écran bouger, et ce qu'a dit Olivier est formidable, mais elle est extrêmement contemporaine. C'est-à-dire que pour moi, le monde moderne, sa vitesse, le scooter, les sacs qu'elle porte...
Le fric.
La façon de s'habiller...
Elle vit dans le fric, mais elle n'est pas dans le fric.
Voilà, elle a une âme, elle est au-dessus de ça, mais elle est aussi ça. Elle est dans la matérialité de notre monde. Elle porte les marques, elle n'est pas dans un rapport critique, mais elle est... Effectivement, il y a une façon sublime, grâce au regard qu'il porte sur elle et grâce au personnage, de nous mettre dans un état d'hypnose et de grâce qui pour moi est quand même ce que je recherche au cinéma quand je veux voir un film et que j'ai très souvent trouvé dans l'histoire du cinéma, parce qu'on, là, j'ai récemment vu un film de Dreyer à la Cinémathèque, ou je sais pas, je...
Mais ça s'apparente, ce personnage Chopin est en droite ligne de ce cinéma de Dreyer, justement.
Disons,
la convocation des fantômes de Bresson, à l'intérieur de notre monde.
Pickpocket, ou je sais pas, les grands cinéastes ont fait ça, quoi.
Oui, enfin, disons que je trouve que ce qu'il y a de plus beau dans le cinéma, c'est quand le cinéma est conscient du fait qu'il parle de l'invisible. Dans ce que j'admire le plus dans le cinéma, c'est évidemment des films qui savent, qui filment autre chose que ce qu'ils filment. C'est-à-dire que le monde matériel s'arrête, enfin que la caméra, la pellicule n'impressionne pas juste la surface des choses, mais qu'elle saisit quelque chose de plus, quelque chose d'autre. Et c'est vrai que c'est moi les choses auxquelles j'ai toujours été le plus sensible au cinéma. Et donc effectivement, je me mets sous l'étoile de Dreyer, de Tarkovsky, Bergman, de Bresson ou de Bergman, qui ont été les cinéastes qui m'ont le plus marqué et qui ont ouvert cette voie-là. Enfin, qui ont saisi une forme de spiritualité qui est très spécifique au cinéma, qui est celle d'aucun autre art.
Donc, Personal Shopper, ça sort la semaine prochaine sur tous les écrans en France. C'est signé d'Olivier Assayas, le livre de Serge Toubiana, remarquable autobiographie d'un amoureux du cinéma et qui le reste, vient de sortir aux éditions Grasset. Et comme Mishka est là, vous allez, Mishka, faire deux choses, si vous le voulez bien. Vous allez annoncer le dernier disque.
Mais je ne sais pas ce que c'est.
Ben oui, mais je vais vous donner ma petite feuille.
Ah bon ? Ben donnez-la moi, parce que l'heure tourne.
Voilà. Alors c'est Benjamin, si je vous dis
Biolay.
Que c'est Benjamin. Vous l'aimez, Benjamin Biolay ?
Ah ben oui, bien sûr, moi j'aime tout le monde.
Pas vrai, on vous écoute, on sait que vous avez vos choix.
Après tout ce qu'on vient de dire sur le cinéma, tu nous dis une phrase aussi banale, c'est pas possible.
Palermo, non. Hollywood.
Un tronc se marche dans la rue, me lâche un coup de coude. Alors...
Alors ce soir, nous allons profiter de la présence de Mishka dans notre studio. Vous allez faire là des annonces, Mishka.
Ben oui, c'était Benjamin Biolay dans Palermo Hollywood. Voilà, je m'avais donné un papier, heureusement, parce que je n'aurais pas forcément reconnu.
Et puis dites les noms de l'équipe, tant que
ah
vous
ben
y
oui,
êtes.
Ah ben oui, c'était évidemment, c'était réalisé par Véronique Barnet, que
oui,
je salue d'ailleurs,
là.
Préparé par Elodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Arthur Daniel. Il y a la technique ce soir, Yves Dorolin, moi je les connais tous.
Voilà. Bah oui, vous les connaissez tous. Bah alors oui. Il vous reste à peu près 1 minute 30
oui.
pour courir dans votre studio.
Oui, alors,
donc je vous pose la question
oui,
fatidique. Qu'allez-vous faire ce soir, Very Bad Boy?
Eh ben, je vais présenter une sélection astucieusement choisie des meilleurs moments de l'année 2016. Des choses évidentes, des choses un peu moins. Voilà.
Bon, à tout à l'heure. Courez vite.
Merci. Allez.